Bible de l'humanité, préface. L'humanité dépose incessamment son âme en une Bible commune. Chaque grand peuple y écrit son verset. Ces versets sont fort clairs, mais de formes diverses, d'une écriture très libre. Ici en grand poème, ici en récits historiques, là en pyramide, en statue. Un dieu parfois, une cité, en dit beaucoup plus que les livres et, sans phrase, exprime l'âme même. Hercule est un verset, Athènes est un verset, autant et plus que l'Iliade, et le haut génie de la Grèce est tout dans Pallas Athénée. Il se trouve souvent que c'est le plus profond qu'on oublia d'écrire, la vie dont on vivait, agissait, respirait, qui s'avise de dire « Mon cœur a battu aujourd'hui ». Ils agirent, ces héros, à nous de les écrire, de retrouver leur âme, leur magnanime cœur dont tous les temps se nourriront. Âge heureux que le nôtre. Par le fil électrique, il accorde l'âme de la terre, unie dans son présent. Par le fil historique et la concordance des temps, il lui donne le sens d'un passé fraternel et la joie de savoir qu'elle a vécu d'un même esprit. Cela est très récent, et de ce siècle même. Jusqu'ici, les moyens manquaient. Ces moyens ajournés, sciences, langues, voyages, découvertes en tout genre, nous sont arrivés à la fois. Tout à coup, l'impossible est devenu facile. Nous avons pu percer l'abîme de l'espace et du temps. Les cieux derrière les cieux, les étoiles derrière les étoiles. D'autre part, d'âge en âge, en reculant toujours, l'énorme antiquité de l'Égypte en ses dynasties, de l'Inde en ses dieux et ses langues successives et superposées. Et dans cet agrandissement, où l'on pouvait s'attendre à trouver plus de discordance, au contraire, l'harmonie s'est révélée de plus en plus. Les astres, dont le spectre solaire vient de nous faire connaître la composition métallique, semblent peu différer d'une autre. Les âges historiques auxquels la linguistique nous a permis de remonter diffèrent très peu des temps modernes dans les grandes choses morales. Pour le foyer surtout et les affections du cœur, pour les idées élémentaires de travail, de droit, de justice, la haute antiquité, c'est nous. L'Inde primitive des Védas, l'Iran de l'Avesta, qu'on peut nommer l'aurore du monde, dans les types si forts, si simples et si touchants qu'ils ont laissé de la famille, du travail créateur, sont bien plus près de nous que la stérilité, l'ascétisme du Moyen-Âge. Rien de négatif en ce livre. Il n'est qu'un fil vivant, la trame universelle qu'ontourdit nos aïeux de leurs pensées et de leur cœur. Nous la continuons sans nous en rendre compte, et notre âme y sera demain. Ce n'est pas, comme on pourrait croire, une histoire des religions. Cette histoire ne peut plus s'isoler et se faire à part. Nous sortons tout à fait des classifications. Le fil général de la vie que nous suivons se tisse de 20 fils réunis qu'on isole qu'en les arrachant. Aux fils religieux s'en mêlent incessamment ceux d'amour, de famille, de droit, d'art, d'industrie. L'activité morale comprend la religion et n'y est pas comprise. La religion n'est cause, mais beaucoup plus effet. Elle est souvent un cadre où la vie se joue, souvent un véhicule, un instrument des énergies natives. Quand la foi fait le cœur, c'est que déjà lui-même, le cœur, a fait la foi. Mon livre naît en plein soleil, chez nos parents, les fils de la lumière, les Aryas, indiens, perses et grecs, dont les Romains, celtes, germains ont été les branches inférieures. Leur haut génie, c'est d'avoir tout d'abord créé les types des choses essentielles et vitales pour l'humanité. L'Inde primitive des Védas nous donne la famille dans la pureté naturelle et l'incomparable noblesse que nul âge n'a pu dépasser. La Perse est la leçon du travail héroïque dans la grandeur, la force, la vertu créatrice que notre temps lui-même, si puissant, pourrait envier. La Grèce, outre César, eut le plus grand de tous, l'art de faire l'homme. Merveilleuse puissance, énormément féconde, qui domine et méprise ce qui s'est fait depuis. Si de bonne heure l'homme n'eût eu ces trois causes de vie, respiration, circulation et assimilation, l'homme à coup sûr n'eût pas vécu. Si, dès l'Antiquité, il n'eût pas possédé ses grands organes sociaux, foyer, travail, éducation, il n'aurait pas duré. La société eût péri, et l'individu même. Donc, les types naturels en ont existé de bonne heure et dans une beauté merveilleuse et incomparable. Pureté, force, lumière, innocence, toute enfance, mais rien de plus grand. Vierges enfants, venez et prenez hardiment les bibles de lumière. Tout y est salubre et très pur. Le plus pur, l'Avesta, un rayon du soleil. Homère, Échille, avec les grands mythes héroïques, sont pleins de jeune vie, verte sève de Mars, brillante azur d'avril. L'aube est dans les Védas, dans le Ramayana, ôtez 5 ou 6 pages de pauvreté moderne. Un soir délicieux où toutes les enfances, les maternités de nature, esprits, fleurs, arbres, bêtes, jouent ensemble et charment le cœur. À la Trinité de Lumière, tout naturellement, par Memphi, par Carthage, par Tyr et la Judée, contrasta, s'opposa le sombre génie du Midi, l'Égypte dans ses monuments, la Judée dans ses écritures, ont déposé leur Bible, ténébreuse et des faits profonds. Les fils de la lumière avaient immensément ouvert et fécondé la vie, mais ceux-ci entrèrent dans la mort. La mort, l'amour mêlés ensemble, profondément fermentent au culte de Syrie qui se sont répandus partout. Ce groupe de nations est sans nul doute le côté secondaire, la petite moitié du genre humain. Grande est leur part pourtant par le commerce et l'écriture, par Carthage et la Phénicie, par la conquête arabe et cette autre conquête singulière que la Bible juive a faite de tant de nations. Ce précieux monument où si longtemps le genre humain chercha sa vie religieuse est admirable pour l'histoire, mais beaucoup moins pour l'édification. On y a conservé avec grande raison la trace si diverse de tant d'âges et de situations, des changeantes pensées qui l'inspirèrent. Il a l'air dogmatique, mais ne peut l'être, étant tellement incohérent. Le principe religieux et moral y flotte infiniment des Elohim à Jéhovah. Le fatalisme de la chute, l'élection arbitraire, etc., qu'on y trouve partout, y sont en violent désaccord avec les beaux chapitres de Jérémie, d'Ézéchiel, qui promulguent le droit comme nous l'entendons aujourd'hui. Dans le détail moral, même dissonance. Certes, le grand cœur d'Isaïe est infiniment loin des habiletés équivoques et de la petite prudence des livres dits de Salomon. Sur la polygamie, sur l'esclavage, forte est la Bible, et pour et contre. La variété de ce livre, son élasticité, ont beaucoup servi cependant. Quand le père de famille, sévère israélite, honnête et ferme protestant, en lisait des fragments choisis et les interprétait aux siens, les pénétrant d'un souffle qui n'est pas toujours dans le texte. Ce texte, qui oserait le remettre aux mains d'un enfant? Quelle femme osera dire qu'elle l'a lu sans baisser les yeux? Souvent, il offre tout à coup l'impureté naïve de la Syrie, souvent la sensualité exquise, calculée, savourée, d'esprits sombres et subtils qui ont traversé toutes choses. Le jour où nos Bibles parentes ont éclaté dans la lumière, on a mieux remarqué combien la Bible juive appartient à une autre race. Elle est grande à coup sûr et sera toujours telle, mais ténébreuse et pleine de scabreux équivoques, belle et peu sûre, comme la nuit. Jérusalem ne peut rester, comme aux anciennes cartes, juste au point du milieu, immense entre l'Europe imperceptible et la petite Asie, effaçant tout le genre humain. L'humanité ne peut s'asseoir à tout jamais dans ce paysage de cendres, à admirer les arbres qui ont pu y être autrefois. Elle ne peut rester semblable au chameau altéré que, sur un soir de marche, on amène au torrent à sec. Bois, chameau, ce fut un torrent. Si tu veux une mer, tout près est la mer morte. La pâture de ses bords, le sel et le caillou. Revenant des ombrages immenses de l'Inde et du Ramayana, revenant de l'arbre de vie où l'Avesta, le chat Namet, me donnait quatre fleuves, les eaux du paradis. Ici, j'avoue, j'ai soif. J'apprécie le désert, j'apprécie Nazareth, les petits lacs de Galilée, mais franchement, j'ai soif. Je les boirai d'un coup. Laissez plutôt, laissez que l'humanité libre en sa grandeur aille partout. Qu'elle boive ou bure ses premiers pères, avec ses énormes travaux, sa tâche étendue en tous sens, ses besoins de titan. Il lui faut beaucoup d'air, beaucoup d'eau et beaucoup de ciel. Non, le ciel tout entier, l'espace et la lumière. L'infini d'horizon, la terre pour terre promise et le monde pour Jérusalem. 15 octobre 1864.